Chapitre 6 Les nuées. Loin de Ribamour, loin de son étude ou le papier d'or sous la poussière, Maître Bonésime chassait dans les bois de Nyx avec des amis la bête noire. Depuis l'aube, les chiens donnaient sur un solitaire. Lui-même, voilà une heure qu'il était à son troisième poste, sous les hêtres. Tout autour de cette ombre, par-delà les fûts argentés, on se sentait, tant le jour était glorieux, comme dans un globe de lumière, et la lourdeur du soleil pénétrait le feuillage. Ses yeux battirent de fatigue, un coup de fusil les lui firent ouvrir. Deux autres, au loin, retentirent sans éclat, et puis le son d'un corps, qui sembla nager faiblement, se dissoudre dans la chaude étendue. Plus près de lui, tout à coup, le bruit des branches rompues vint l'avertir que le sanglier dévalait. Il y courut, mais à peine pour voir passer la meute, et derrière Wolfgang et Tchepalao, qui, parmi les piqueux, courait de ses épaisses jambes en s'épongeant et criant « Taio !»« Taio, Taio !» répéta le notaire, qui n'était point puriste en vénerie. Il se jeta à leur suite. On traversa une clairière. Le soleil fit luire la robe des chiens, les clous d'une large semelle, un canon de fusil, et presque aussitôt la trombe des couleurs de voix se précipita, se confondit, mourut dans la forêt immobile. Cependant, dans sa maison, Basilida, de ses doigts aigus, caressait les cheveux de son amant agenouillé. « Non, tu ne m'aimes point, » dit-elle. Et au même instant, s'écria, car Vitalis venait en réponse de la meurtrir sous son peignoir. « Ah ! » fit l'amoureuse qui entr'ouvrit sa bouche si rouge comme pour aspirer l'âme d'une puissante fleur. « C'est que tu es trop jeune, » reprit-elle, « tu ne penses qu'à toi, toujours, même quand tes rêves t'emportent loin de moi. Tu ne sais pas souffrir dans un autre cœur que le tien, et une douleur partagée, c'est cela qui est l'amour même, ô mon amour. » « Le plaisir n'est-ce donc rien ? » demanda-t-il. « Et jusque dans le plaisir, Vitalis, tu n'inventes que ton plaisir. » Mais c'est son corps qui l'interrogeait. Sous ses doigts, le peignoir s'ouvrit. Il l'aperçut tout entière, avec sa poitrine bombée, des genoux ronds, la haute lyre de ses hanches. Et il la désira. Lida. Sans répondre, elle le précéda, et d'une ondulation, faisant glisser son peignoir jusqu'à terre, se coucha toute nue. Cependant, elle laissait nager sur Vitalis les regards d'une méprisante joie, comme si elle n'eût offert qu'à son gré ses membres et leur servage orgueilleux. C'était un des jours les plus chauds de cette fin d'été. Sous le firmament d'or, voguaient les nuages éclatants et denses que les souffles d'en haut, ignorés d'un sol immobile, modéraient selon des caprices mystérieux. L'un d'eux, en passant sur le soleil, plongea dans la pénombre ses amants embrassés déjà. Ô nuée aux humides flancs mouvants de vapeur, ô nuée du hasard pétrie en forme de cygne, éphémère ivresse des yeux, avant qu'une nuée nouvelle épouse les figures inconstantes de la beauté, et que par vous se ruine ou renaisse l'image innombrable de nos rêves, avant qu'au front des Pyrénées, un instant retenu par les sapins aux noires chevelures, on le voit, pareil au chasseur qui fuit et se retourne, tendre l'arc sept fois teint, et que jusqu'au prochain soleil qui t'y vienne concevoir encore, tu n'ailles abîmer dans la mer ton être identique et changeant, toujours le même, toujours une autre. Ô nue porteuse de rosée, te sont-ils apparus au loin dans la ténèbre des bois, Maître Bonésime qui court le sanglier à toutes jambes au milieu des piqueux, et non loin d'eux Wolfgang au front suant, ou bien par-delà la gare dans le chemin d'argile qui contourne les réservoirs, n'as-tu pas en passant gardé du soleil genre de cérisole, auprès de qui, sous un voile épais, se hâte la facile épouse d'El Chebarao. Jean, dit-elle, j'ai peur d'être reconnue, ce sera l'affreux. Affreux! La réputation d'un homme vienne, vierge comme le pétale du camélia. Mais madame chérie, les mortiripuaires sont tous au café du casino, à part votre mari et Alexandre Bonésime qui chassent à Nix, d'où ils ne reviendront que fort avant dans la nuit, ivres, je pense. Quant à la patronne de cette auberge où nous allons, puisque vous ne voulez de nulle autre part, c'est, je le tiens de Vitalis, Pascal, une enfant de l'Oron Sainte-Marie, d'où elle n'est arrivée que depuis un mois, et par conséquent, qui vous ignore. Et je me demande même où elle est, cette auberge. Ce n'est pas ça, continua-t-il en indiquant deux tours gardées par des palissades vertes. Non, ça c'est le château d'eau. Autant qu'il me souvient de mes promenades d'enfance, pour trouver une maison ici, il faut tourner un peu plus loin, à travers un pré. En effet, l'auberge était là, sous un chêne et fort isolée. Mais contre le mur de façade, des jeunes gens jouaient à la pelote. « Ah !» murmura Cérizole, « c'est bien ma chance. »« Allons-nous-en » dit-elle. « Clarisse, vous ne voudriez pas. Dites que vous ne voudriez pas. » « Je ne voudrais pas, » répéta après un soupçon de résistance la femme de Wolfgang. Ils ratèrent le pas sans être vus. Le chêne bientôt les cacha. « Songez, » reprit-il, « que j'ai mis en votre honneur, pour n'être pas reconnu, des choses couleur d'ardoise et de brouillard, et que je ne vous ai pas embrassé depuis hier, pour ne pas vous compromettre. » « Eh bien alors, » dit Clarisse, « compromettez-moi, je vous prie, monsieur de Cérizole. » Elle lui tendait ses lèvres, mais Cérizole fit la moue. « Dehors, » fit-il, en étendant la main, « non, jamais !» Clarisse se mit à rire. « Grand fou !» dit-elle, et ils firent le tour de l'auberge jusqu'à la porte de derrière, qui était celle de l'étable. « C'est gentil, » dit-elle, « chez vous. »« Oui, simple et confortable, c'est la devise de la maison. Bon luxe bourgeois, pas tapageur. » Et il se mit à frapper sur la porte pour appeler l'aubergiste, qui apparut enfin. C'était une vieille femme vêtue de noir, dont le visage paraissait fait d'une pomme cuite. Elle les conduisit à travers l'épaisse litière, vers une échelle de poulailler qui donnait sur un grenier à foin, d'où on descendait dans la cuisine et de là dans une chambre basse dont les volets étaient clos. « C'est à cause des joueurs de bal, » expliqua la vieille. « Ne vous l'auriez pas pu les flanquer dehors, je vous ai fait tenir une chambre par un fronton. Mais, monsieur, si je leur avais refusé, ils se seraient doutés de quelque chose et vous auraient guetté à coups de cailloux. » Oh, « on est bien veillant dans le pays, » fit remarquer Cérizole. Ah, monsieur, si vous saviez ce qu'ils sont malhonnêtes et comme je regrette Oloron. Tenez, il y en a un vieux là avec les jeunes, celui de là-haut, j'entends qu'il l'appelle, un joli cadet, ça fait, il est déjà sous. Eh mon Dieu, murmura la jeune femme, c'est le frère de Victorine. Et il va jouer contre la fenêtre. « Mais voyons, Jean, qu'est-ce que ça fait ?» murmura Clarisse, tandis que la vieille refermait la porte. « Puisque je suis là, moi, est-ce que vous m'aimez beaucoup, au moins ?»« Ce sera à vous de me le dire tout à l'heure, » répondit-il. On voit que cette liaison naissante n'était pas fondée sur des sentiments bien profonds. Il n'en avait pas moins su tirer peu après les plaisirs les plus vifs, scandé par le bruit sec de cette pelote qui, à intervalles inégaux, frappait les contrevents, tandis qu'un joueur annonçait les points à voix haute. Et une heure après, Jean de Cérizole, commençant à reprendre toute sa tête, « 13 !» annonça le buteur de l'autre côté. Mon chéri, dit l'homme, il exagère. Clarisse ne répondit qu'en cachant son visage entre l'épaule et l'oreille de son amant. 14 ! Cria encore le buteur, dont on venait de manquer le service. Ben oui, continua Cérizol, l'homme fort qui a tué le diable. Clarisse, qui le contemplait avec plus de sérieux que ses yeux n'en laissaient voir d'ordinaire, soupira comme Madame Bonésime. Non, vous ne m'aimez pas. Et le jeune homme, ayant fait quelques protestations pour lui prouver que si, encore. Oui, répondit-elle, je sais bien, mais l'amour, ce n'est pas cela. Cérizol murmura une inconvenance. Grand fou, dit-elle de nouveau. Et à vous que d'imaginer, Wolfgang, ce que nous en avons fait, c'est la moitié de ton plaisir. Les lèvres étroites de Cérizol laissèrent percer un sourire, mais il répondit, « Non, je vous assure que non. » « Mais pourquoi riez-vous comme ça ? Guiche avait bien raison. »« Qu'est-ce qu'elle a dit, Guiche ?» demanda Cérizol, qui, avec la chemise de son ami, jouait à lui faire une bavette. « Elle a dit, « Oh, non, elle n'a rien dit, mais elle serait jalouse de moi. »« Vous savez bien qu'elle a quelque chose pour vous. »« Mais Vitali, c'est là. » Et votre mari, est-ce qu'il serait jaloux, lui ? Oh, le sot ! Je voudrais qu'il soit là, attaché sur cette chaise, pour nous voir. On en saurait croire combien de tromper cet homme. Oh, ça m'a fait toujours plaisir. Toujours ? Interrompit Cérizol. Mais vous mériteriez en vérité. Jean, non, ne me faites pas de mal. Qu'est-ce que ça vous fait, puisqu'au fond, vous ne m'aimez pas ? J'aime à voyager seul. Mais mon chéri, quand j'ai épousé M. Etchepalao, j'étais comme toutes les jeunes filles bien élevées qui se marient. J'espérais lui rester fidèle, je vous assure. C'est lui qui n'a pas voulu. Si vous saviez comme il est grossier, bête et brutal. Clarisse, non, je ne l'ai plus. Pardon de vous en parler. Je sais bien que ça ne se fait pas. Mais de lui, vraiment. Et il boit par-dessus le marché. Mais moi aussi, dit Cérizol. Ah ! S'écria sans logique la jeune femme, que j'aimerais vous voir un peu parti. Et vous avec moi, ah ! Partir ensemble. Jean, enfin, vous êtes fou. Une mère de famille boire. Voyons, laissez-moi. C'est qu'il faut de la tenue dans la vie. Cérizol, qui s'occupait de ses doigts osseux à découvrir la chair obéissante de sa compagne, pour en composer des poses au bord du lit. « Vous avez donc des enfants ? » demanda-t-il. « Oh, mon Dieu, oui, soupira-t-elle. Oh, je croyais vous l'avoir dit. Une fille. Oh, enfin, Jean, ce couvre-pied est sale. Elle est à Cambeau, chez sa grand-mère. Pauvre chérie. Non, je suis très mal à l'aise comme ça. » Elle était sur le ventre, le menton dans l'oreiller, les jambes à demi pendantes, et son corps, à la fois ample et délicat, tranchait sur une satinette écarlate où Cérizol l'avait de force étendue. « C'est ainsi que je vous aime, dit-il, ne bougez plus jamais. » À ce moment, une nuée encore passa sur le soleil à son déclin. Clarisse ne fut plus au clair-obscur qu'une arabesque lumineuse et recourbée. Et sans bouger, elle murmura dans la plume « Non, vous ne m'aimez pas. » Le jeune homme ne se put tenir de la tirer dans ses bras et dérangea la pose. Mais Clarisse, comme si le nuage eût laissé un peu de son ombre dans son cœur, semblait ne plus savoir sourire. « Qu'y a-t-il, Clarisse ?» La jeune femme soupira sans répondre. Et comment dire le pourquoi de sa peine elle qui, au bras d'un homme jeune et plaisant, n'en avait ressenti jusque-là jamais aucune. Mais celle-ci était une peine délicieuse. Cérizol la serra contre lui, plus près qu'il n'avait fait encore. Il sentit ce cœur enfantin qui battait contre sa poitrine. C'était un mouvement à peine sensible, un peu d'inquiétude, presque un aveu. Alors, attirant vers lui son clair visage, il en baisa les yeux tour à tour, comme s'il y cherchait des larmes, aussi doucement qu'un enfant le matin pose ses lèvres sur la rosée des fleurs. Et Clarisse, qui, pour la première fois, se sentit découverte sous les yeux d'un amant, avec ce frisson que la pudeur donne, tira le drap sur sa nudité. Ils demeurèrent ainsi sans parler plusieurs minutes. La jeune femme, si elle avait pu voir le visage de son ami, n'y aurait plus rencontré ce sourire qui lui faisait un peu de peine. L'aubergiste, qu'étonnait le mutisme de ses clients, frappa à la porte.
« Il est bientôt 7 heures, » dit-elle, « encore que la dame oublie. »«
Comment ? » s'écria-t-elle, « 7 heures ? Oh, il faut que je me sauve. » Elle avait sauté du lit.
« Jean, ne me regardez pas, » dit-elle.
Jean allumait une cigarette. Les joueurs de pelote avaient cessé leur partie. Le soir tombait, et on entendit le pied nombreux d'un bétail qui gagnait la fontaine. Une vache meugla vers le ciel. Cependant, Basilida, rassasiée de caresses, mâchait son cœur amer, toute près de crier contre le vide de l'amour. Tel un fou qu'ont égaré les mirages du couchant, pleure dans la nuit sans étoiles. Son complice était encore à ses côtés. C'est à lui qu'elle s'en prenait de l'aimer, mais avec un tel ressentiment qu'il lui semblait à force ne l'aimer pas. Que n'y avait-il sacrifié, et qu'en retour, il donnait peu de choses, se jouait joli, pliant, à toute main abandonnée. Oui, à toute main, et se valait bien des crimes. Vitalis, dont la pensée visiblement était ailleurs, ne répondit pas. Son silence même exaspérait Basilida.
« Va, tu n'es qu'une fille !» cria-t-elle enfin.
« Je veux bien, » fit-il, et se leva.
« Et où vas-tu ? »
« Bah, où vont les filles ? Donc sur le trottoir, prendre l'air ?» Madame Bonésime lui barra la porte. Elle méprisait son amant, soit le haïssait, passe encore, mais elle ne voulait pas le perdre. De cela au moins elle était sûre. Autant que de cette jalousie qui la broyait comme un pressoir, où elle n'était plus qu'une grappe douloureuse. À demi rhabillée, en jupon, avec ses blanches jambes nues et ses cheveux à l'abandon, ses cheveux d'or femelle qui bouffaient sur ses épaules comme un paquet de filigranes, elle le contemplait, déjà repentante d'y avoir insulté, celui qu'elle avait reçu dans son lit. Elle le tenait embrassé par sa taille de demoiselle. Les plus belles larmes coulaient sur ses joues. Un de ses seins avait sauté hors de la chemise, et elle suppliait. Mais Vitalis, sous de plaisir lui aussi, là d'une même présence, obsédé de reproches, demeurait de glace devant ses fureurs nouvelles et plus tendres. Debout et muet contre le lit, il avait encore à la main son béret qu'il venait de reprendre. Pour tout dire, il songeait à Sabine, que l'on rencontrait d'ordinaire à cette heure-ci sous les platanes du jardin public, entre Bottine et Motononto. Sans rudesse, il tenta d'écarter la jeune femme. Celle-ci, laissant glisser ses bras le long de son corps de son amant, tomba à genoux.
« Vitalis, tu ne m'aimes plus !»
À ce reproche, mille fois entendu, le jeune homme, qui sentait la patience lui échapper avec la tendresse, répondit d'un air, hélas, trop sincère, «
Non,
La jeune femme se détacha soudain de lui, comme de la branche un oiseau blessé, et porta ses mains à son cœur.
« Ce n'est pas vrai !»«
C'est vrai, l'on le bire bonheur fatigue à la longue. Et il y a des jours, celui que je vous dois m'assomme comme un pavé. »
Basilina devint plus pâle.
« Vous êtes impoli, » dit-elle. Mais elle resta agenouillée. Elle avait remonté son épaulette et de ses deux mains écoutait battre son cœur. « Parlons-en, » continua Vitalis de ta politesse. « Est-ce que tu l'as retrouvé dans ton corset ? Ben non, c'est vrai. Il est encore sur le fauteuil rouge. Femme du monde, va, épouse chrétienne, qui embrasse son amant devant les jeunes filles. »
Basilida éclata d'un rire, mais d'un rire mauvais. « Ah, c'est là que le bas te blesse, Benet, qui s'imagine qu'on en tenait pour lui. Mais c'est à ton ami qu'elle en a, mon cher, au colle-genre de Cérisol. Il se moque de toi, tous les deux.
C'est pour ça qu'il fait la cour à Clarisse et qu'il est avec elle à présent derrière la gare.
Il te le dit, mon enfant, va tirer le drap. C'est tu qui te trouveras dessous ?
Mais ce n'est pas vrai. Mon pauvre Vitalis, tu croyais que c'était toi qui tenais la corde. Mais elle te trouve bien trop poltron.
Oh, c'est idiot, à la fin, cria Vitalis. Qu'est-ce qui m'a fait monter dans sa chambre ? Oui, monter, comme au claque. Mais qui m'y a gardé de force ?
Oh, Cérisol ne se serait pas laissé garder. Il sait se servir d'un revolver, lui.
Pour ce qu'il en fait, il n'a tué personne, après tout.
Tandis que toi, tu as laissé assassiner ton ami Firmin.
Oh, assassiné, il n'en est pas mort, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que j'aurais fait contre 500 personnes qui ne lui en voulaient pas ?
Vous savez bien que c'est un coup de hasard qui l'a blessé.
Et pourquoi volait-il au secours de ce filot de curé qui criait au secours parce qu'on le ramenait en douceur à son presbytère ?
Oui, oui, interrompit la jeune femme. Je l'ai toujours dit que tu parlais bien.
Quelquefois, reprit Vitalis, et avec un sourire perfide, il ajouta,
mais peut-être que j'aurais mieux agi s'il s'était agi d'une autre.
Mais tu l'aimes donc ?
Il prit un air grave, car la jalousie l'avait mordu lui aussi.
Je l'aime, dit-il.
Basilida se releva sous le cou et dit en scandant ses paroles « Et tu t'imagines que je vais te le permettre? Tu t'imagines que je t'aurais élevé à la becquée, que je t'aurais, au danger de mon âme, appris comment on caresse et comment on embrasse, à toi qui n'avais eu affaire qu'à des gotons, et tout cela pour que vous fassiez l'amour devant moi ?»
Elle lui avait mis la main sur l'épaule et parlait les dents serrées. Mais Vitalis, ce jour-là, brisait ses entraves. Il haussa les épaules et reprit avec plus de force.
« Je l'aime et je l'épouserai. »
À ce moment, la passion de Madame Baudésime se déchaîna à travers des sentiments extrêmes. La fureur, la haine, l'amour, la honte. Elle pleura de nouveau. Elle se roula aux pieds de Vitalis, qui ne la releva point. Ses cheveux balayèrent en vain le sol, et enfin tout le nouveau, elle cria des reproches avec des injures.
« Oh, je crains, s'il y a quelqu'un, que vous nous fassiez remarquer, » lui dit le jeune homme, qui avait repris tout son sang-froid.
« Écoute, Vitalis, ne me brave pas, tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Je n'ai pas d'enfant, après tout, et quant à mon mari... »
Quelques coups frappés à la porte l'interrompirent. « N'entrez pas !»«
En effet, » dit Vitalis.
« Oh, c'est... » reprit Dedzine dans le corridor. « Monsieur et Madame les Harlins, oh, qui sont entrés en passant, pour voir Madame, si ça ne la dérange pas. »
« Oh, dites que j'ai la migraine, que je garde le lit, que n'importe quoi !»
« Vous feriez mieux d'y aller, » insinua Vitalis avec toute sa douceur retrouvée.
« On sait que je suis ici et que vous n'êtes pas sujette aux migraines. » Basilida prit ce soin encore pour de l'ironie. « Ah, tu as assez de moi, » fit-elle. « Eh bien, va-t'en, qui te retient, va retrouver ton émeraude. Quant à moi, pensez à ce que pensent les autres, j'ai d'autres poissons à frire. Et ne ris pas comme ça, je vais leur crier dans la figure que nous sortons du lit. » Mais le touchait la clé déjà. « Ce serait drôle, » dit-il, presque malgré lui. Mais à ces seuls mots, Madame Baudésime ouvre la porte, se jette dans le couloir avant qu'il la puisse retenir. Sans se soucier de Delphine, Vitalis court jusqu'à l'escalier, et là, il entend Basilida, déjà descendue, qui ouvre la porte du salon en disant « Je vous demande pardon de vous recevoir comme ça, au saut du lit, j'étais avec mon amant. » Dans le salon, encore brillant de jour, les deux visiteurs restèrent muets de surprise, et Madame la Harane, malgré sa douceur, se pinça les lèvres devant la tenue de Basilida. Mais le capitaine, qui n'était point méchant homme, répondit oh, « Nous vous laissons donc, madame, et soyez sûre que ma femme ni moi ne retiendrons rien de cette minute de dégarement, n'est-ce pas, Marie ?»« Oui, mon ami, » approuva Madame la Harane, en reprenant son indulgence. À ce moment, un nuage encore passa sur le soleil. Celui-là même, sans doute, qui allait tout à l'heure vêtir les plaisirs de Carice, d'ombre et de mélancolie. « Le temps se court, » ajouta Madame la Harane en assurant son face à main. Madame Baudessime ne répondit pas. Elle restait contre la porte, irrésolue, avec ses jambes à découvert et ce visage bombé d'espagnol sous une pâle crinière. « Oh, se couvrirait à moins, » observa le capitaine.